19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, toujours en live sur l'antenne de Beurre FM avec des programmes toujours complets et actifs. C'est Time Sport, votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h. Au menu de l'émission en ce jeudi 28 novembre 2019, on aura un invité de marque, Yann Inveen, journaliste spécialiste de hand et hockey et aussi volleyball. Il sera de la partie et avec nous dans cette émission. On partira du côté du Zénith Saint-Pétersbourg pour revenir sur ce fameux match face à l'Olympique Lyonnais. Mais aussi dans cette émission encore de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone face au Borussia Dortmund et aussi le premier but d'Antoine Griezmann en Champions League avec les Blaugrana, sans oublier la Ligue Europa, Saint-Etienne face à la Gantoise belge et aussi le fameux Liverpool-Naples. On reviendra en cette fin d'émission sur ce gros match de la Champions League. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et on n'oublie pas le 0153483000 pour réagir avec vos consultants ce soir et aussi sur la Twittosphère, le hashtag du même nom de l'émission qui est Time Sport. Avec moi, Achille sera là ce soir. Comment ça va, Achille?
Ça va, super. Au top.
Ah ouais? Aïe, c'est pas bon. Quand Achille enchaîne avec du top, ça me fait rappeler un peu Kamel Aïd Kaira, présidenté qui doit nous écouter ce soir.
C'est ça.
En tout cas, il est avec nous aussi. C'est Bruno Ayo. Comment ça va, Bruno?
Bien et toi, Bilal? Salut à tous.
Ça va bien.
J'espère que vous portez tous bien.
Eh ben, nous aussi. Et ouais. On parle ce soir du football belge. Ouais.
Ouais.
On reviendra.
Ouais. Si tu es même pas emballé, tu sais.
Moi, j'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde et toi, même pas. Ouais. Bon, ça va. Ok. Ok, Bruno. Nabil Zindik est avec nous aussi. Comment ça va, Nabil?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous. Ça va très bien.
Ah ben ça.
J'espère qu'on va parler un peu de Benzema là, parce que là, je sens que les mecs sont un peu mous.
Alors, on va essayer.
La Belgique. C'est un top joueur et un galactique là, Karim Benzema.
Justement, on va essayer de revenir.
Et ça, c'était le match d'il y a deux jours.
C'est ça.
On va essayer d'en parler. Bon, c'est deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. On s'en fout.
Grandioso. Allez, c'est parti pour la Ligue des Champions.
Je sors de ce corps.
Time Sport, le ras-le-bol.
On va s'attarder sur Lyon, Achille, si tu es bien d'accord. Et on va essayer d'enchaîner, pourquoi pas, sur Karim Benzema. Allez, après. Allez, on va laisser du temps pour revenir sur le Madrilène. Le Zénith Saint-Pétersbourg face aux Lyonnais. Lyon s'écrase du côté de Moscou. 2-0. Que s'est-il passé, Achille? On s'attendait quand même à une autre physionomie du match, si je peux me permettre.
Alors, moi, je vais juste commencer par d'abord le premier fait de match avant d'entrer dans le détail.
Ouais.
Comment se fait-il qu'un joueur de foot de l'Olympique Lyonnais,
ouais,
pour ne pas citer son nom, Maxwell Cornet, joue la deuxième mi-temps avec un maillot digne de, excusez-moi du terme, mais de la Thaïlande? C'est-à-dire qu'il a joué la deuxième mi-temps avec son maillot. Il n'y a même pas l'écusson du club. Ça te montre à quel point. Lyon, c'est catastrophique.
On
va enchaîner.
Un peu chaud quand même. Jouer avec le maillot.
C'est l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Il joue avec un maillot sur lequel il n'y a même pas l'écusson du club. Il ne joue pas en Ligue 1. Il joue en Ligue des Champions.
C'est un minimum, quoi.
C'est un minimum. Ensuite, parlons du coach.
Allez, Rudy Garcia, l'ancien Marseillais.
La stat qui m'a d'ailleurs très surprise. Il affiche un bilan de 0,85 points par match en Ligue des Champions, soit la moyenne la plus faible dans l'histoire de la Ligue des Champions pour un entraîneur qui a un minimum de 20 matchs. Ben, en même temps, quand on voit le résultat d'hier, on dit ouais, c'est compréhensible, c'est normal, c'est logique qu'ils perdent. Et pour finir, les chiffres qui contredisent tout ça, Lyon termine le match avec 55% de possession de balle, avec 15 tirs. Et sur les 15 tirs qui ont été effectués, 12 en dehors de la surface. À un moment donné, il y a un problème. Et c'est Lyon, c'est club particulier, passe son temps à parler, pleurnicher, à dire X, Y, Z, et au final, ça joue pas. On a bien vu que quand Memphis Depay n'est pas là, ben voilà, quand tu fais jouer
au milieu
de terrain, tu ne fais pas jouer les jeunes du centre
il
de formation.
Il manque beaucoup à ces Lyonnais, c'est ça que tu veux dire?
C'est de la Bérésina. C'est la Bérésina, c'est Lyon, c'est la honte du football français.
Possession de balle, 45 pour le Zénith et 55 tout de même pour Lyon.
Oui, mais possession stérile, la preuve. Une équipe du Zénith Saint-Pétersbourg, parce que sans vouloir leur manquer de respect, mais il y a quel niveau là-bas?
Non, mais c'est une bonne équipe. Équipe européenne.
On aura
juste que quand on voit le match de Lyon hier, les distances entre les lignes, Le marquage en la charnière Andersen Marcelo, c'était catastrophique.
Ouais.
Donc malheureusement, bon, Rudy Garcia, voilà, moi je considérais de toute façon que c'était un choix par défaut, que ça pouvait pas, que c'était déjà mal parti en le prenant. Et quand on voit le résultat d'hier, le match d'hier, bon voilà, c'est tout simplement, c'est assez triste. Après, il faut pas se mentir, au match aller, c'était déjà 1-1, je pense que le Zénith est supérieur à Lyon. Et c'est peut-être pas sur contre cette équipe-là que la qualif est censée jouer. On va être beaucoup plus circonspect sur le match, sur le prochain match. C'est contre Leipzig ou contre
Leipzig, ouais.
Leipzig à domicile.
Tu penses qu'ils n'ont ils ont pas gagné au Zénith et ils vont battre Leipzig?
Non, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que là, ils sont
Non, mais le
match est dans 2 semaines. Ils ont le temps de bosser.
Justement.
Non, mais le truc, c'est que Lyon, à toute façon, ils ont intérêt à se remettre la tête à l'endroit. Mais c'est clair qu'hier, c'était un match, c'était un non-match. Mais après, comme je te le dis, au match aller, déjà, le match nul n'était pas volé pour le Zénith. Donc peut-être que tout simplement, en vrai, c'est pas très grave. Le Zénith, c'est une équipe qui a gagné la Ligue Europa il n'y a pas si longtemps. Donc que le Zénith est supérieur à Lyon. Après, on va être attentif sur les prochains matchs de Lyon. Parce que de toute façon, si ça continue, s'il reste sur cette dynamique, c'est-à-dire que Rudy Garcia a coaché Lyon sur 8 matchs, ils ont eu 3 défaites, il reste sur cette dynamique. Garcia va sauter, donc voilà.
Ah, c'est un peu trop tôt.
Non, mais c'est trop mauvais. Mais je laisse parler Nabil. Mais honnêtement, à ce rythme-là, Garcia va pas faire long feu.
Il y a un réel souci déjà. Il y a une chose. Il y a un fait qui s'est passé hier qui est vraiment, je trouve gravissime côté lyonnais. À ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Il y a un joueur qui a joué la Youth League. Et qu'a joué le match de Ligue des Champions.
C'est ça. Ah bah faux, c'est un blessé.
On n'a jamais vu ça, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que le jeune, il joue la Youth League et l'après-midi, il va enchaîner un match de Ligue des Champions alors qu'il n'a jamais joué un match de championnat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté lyonnais, on est en pénurie de joueurs. Il manquait des joueurs, on n'avait pas assez de joueurs. Mais c'est quoi cette organisation?
Mais Nabil, pour appuyer même ton propos, c'était préparé parce qu'il a joué que 45 minutes exprès la Youth League pour pouvoir jouer la Ligue des Champions.
Mais moi, j'ai jamais vu ça. Et après, il joue.
Ça reste assez incroyable.
La Ligue des Champions, c'est pas la même intensité, c'est pas le même enjeu, c'est pas la même pression. Mais j'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. Alors que tu dois avoir des remplaçants, tu dois avoir des joueurs. Mais ça, faut le souligner. C'est moi pour moi, c'est très grave. Un club comme Lyon qui forme bien des joueurs, qui a des joueurs. Comment tu peux faire jouer un jeune un match de Youth League et la même journée faire un match de Ligue des Champions? Mais non, c'est grave.
Ça peut rester précoce.
Ça montre la désorganisation, voilà. Le manque de structure côté lyonnais. Donc je vais pas blâmer Rudy Garcia parce que c'est vrai que c'est lui l'entraîneur. Mais je pense que ça dépasse. Le coach Rudy Garcia. Il y a un staff technique, il y a sa hiérarchie qui est au-dessus. Et je pense que c'est le Lyon aujourd'hui nous montre bien que c'est mal géré. Que peut-être Aulas, avec ses problèmes de santé qu'il a pu connaître, qu'aujourd'hui il a pas trop la main sur son club. D'ailleurs il l'a reconnu, c'est pour ça qu'il a choisi Juninho, etc. Et aujourd'hui on s'aperçoit, vu la physionomie des matchs, vu l'organisation, vu le fait qu'il s'est passé avec Amine Gouiri, on se rend compte qu'aujourd'hui Jean-Michel Aulas manque cruellement à son club côté l'Olympique Lyonnais et que quand il n'est pas là, il y a un désordre. Et ça se traduit sur le terrain par des faits.
Mais en tout cas, même Juninho, il a poussé une gueulante, si je peux me permettre, chez Nabil.
C'est une blague.
Alors,
première fois.
Pour toi.
Le mec, alors, il a une magnifique carrière, formidable joueur, que je respecte en tant que joueur, mais en tant que directeur sportif, c'est à ce moment-là, il décide de prendre la parole dans les médias. D'aller en conférence de presse, il connaît même pas le résultat qui enchaîne derrière sur le match de Leipzig. Il emploie des mots extrêmement durs. Donc non seulement il protège pas son groupe, il accable ses joueurs et dans tout ça, il apporte du crédit à toutes les petites choses qu'on a apportées. Moi qui parlais tout à l'heure du maillot de Maxwell Cornet, qui est pas n'importe qui. Le petit Amine Gouiri, tout ça, mais c'est la Bérésina, quoi. C'est n'importe quoi. Et l'Olympique Lyonnais, faut faire extrêmement attention parce que je ne suis pas sûr que la saison se termine aussi bien que.
De toute manière, si tu vires Rudy Garcia, je pense pas qu'ils vont virer parce que d'une certaine manière, ça va traduire, ça va montrer les lacunes côté lyonnais et les mauvais choix de Jean-Michel Aulas ou de Juninho.
C'est ça.
Et là, du coup, ça veut dire qu'ils ont fait des choix mauvais et que c'est de leur responsabilité. Et donc là, on peut les accuser tout de suite. Et là, je pense pas qu'ils vont le virer, Rudy Garcia, qui vient juste d'arriver. Mais quand tu regardes les résultats de Rudy Garcia en Ligue des Champions, avec les équipes qu'il a coachées, il a jamais eu de résultats. Donc à un moment donné, il fallait s'attendre à quoi avec lui?
On parlait de la stat de 0,85%, ce qui est le plus mauvais coach.
Ça montre bien.
Voilà, de l'histoire de la Ligue des Champions.
En donc, fait, et en plus.
Alors, ça montre que Rudy Garcia en Ligue des Champions, plus, c'est limité, quoi.
Et en plus, ouais. Dans tout ça, c'est que, en fait, très honnêtement, Juninho, en fait, il fait peine à voir. Tu vois. Moi, j'avais l'image d'un capitaine charismatique, capable de coup de génie, un joueur exceptionnel. En fait, depuis que Silvinho a été mauvais, puis a été licencié, quand je vois Juninho, il fait peine à voir. On sent qu'il ne maîtrise pas le métier dans lequel il est actuellement.
C'est clair, c'est pas Leonardo. Hein.
Il fait énormément d'erreurs de communication. Alors, je ne sais pas comment ça peut se régler ça, mais voilà. Mais donc, soi-disant, il s'entend bien avec Garcia, etc. Mais honnêtement, je comprends pas très bien comment Lyon est allé chercher Garcia. Déjà, c'était on en a déjà parlé, mais c'était l'entraîneur du rival, etc. Et on voit que là, ça donne rien. Honnêtement, Lyon, pour s'en sortir et se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison, je leur souhaite bon courage, honnêtement.
Là, Marseille est bien parti pour garder sa deuxième place, du moins jusqu'à la fin de l'année.
Non, alors Marseille.
En Ligue 1, je parle de Ligue 1.
Oui, mais c'est un
Marseille. Non, mais pour revenir, par exemple, sur Marseille ou Monaco.
Marseille.
Les autres,
Marseille, c'est un autre cas.
Moins de moyens, moins de structure. Non, mais ils y arrivent, quoi.
Non, mais c'est-à-dire que Marseille travaille très bien, il n'y a pas de souci. Mais justement, par opposition, ce que fait l'Olympique Lyonnais, là, actuellement, depuis le début de saison et depuis le départ de Bruno Genesio, alors que déjà on pensait passer sur quelque chose de meilleur, ça n'a ni queue ni tête, ça ne ressemble à rien.
Oui, c'est Lyon, c'est à l'image. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle, quand on voit l'effectif avec lequel il est parti pour se jouer ce match de Ligue des Champions, il est extrêmement pauvre.
Ouais.
Moi, je ne comprends pas. Bruno, quand tu dis, oui, c'est quand même le Zénith, d'accord, mais je suis désolé, Lyon a quoi envier au Zénith? Ils ont rien du tout.
Le
Zénith a un palmarès. Ça, je suis entièrement d'accord.
Après, le seul bémol que je dirais, c'est que bon, jouer au Zénith là-bas en Russie, c'est un peu délicat aussi.
Ouais,
à l'extérieur, qu'à l'extérieur, jouer le Zénith, ça peut être compliqué, tu vois. Après, ils sont sur une bonne dynamique. Le Zénith est premier dans son championnat. Moi, je connais un peu bien le championnat russe. Ils ont des stars aussi. Ils ont des internationaux. Donc voilà.
Dans ce cas de figure, pourquoi tu vas avec une équipe composé le 11 de départ, t'as 6 joueurs à vocation défensive.
Ah, mais il y a un problème.
Le seul joueur qui a essayé de faire quelque chose, c'est est toujours le même, Jeff Reyna-Adelaïde, qui essaye un petit peu prendre un petit peu le relais de Memphis Depay quand il est pas là. Mais sinon, tout le reste, mais tu peux pas. Il y a même pas d'explication.
C'est clair.
Les choix de Garcia, ils sont pas explicables. Le niveau des joueurs n'est pas explicable. Le niveau de la direction, il est calamiteux. Manque de peau.
Tu as souligné. On a souligné déjà un fait avec Amine Gouiri,
avec le maillot.
Donc avec les choix de Rudy Garcia. On voit au niveau des résultats.
Là, ça fait
au niveau des blessures aussi, parce qu'on peut parler aussi du préparateur physique, qui est mis en cause notamment du côté du PSG. Côté de Barcelone, on a beaucoup critiqué les préparateurs physiques. Bizarrement, on ne dit rien sur Lyon.
C'est bizarre.
Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que Lyon ne peut pas être bon.
Que Lyon ne pouvait pas maîtriser, c'est que Depay se blesse avec les Pays-Bas. Et ça.
L'Olympique Lyonnais.
Alors que Garcia avait préconisé à Ronald Koeman de ne pas le faire jouer. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'ajoutent.
Mais après, si l'Olympique Lyonnais est quand même à une grosse place du football européen, quand même.
Bien sûr, et puis non, il a raison. T'as raison, Achille, parce que. Quand tu vois que t'as Maxwell Cornet, international ivoirien, qui a prolongé d'ailleurs. Quand tu vois que devant aussi.
Côte d'Ivoire, ça vaut plus rien en ce moment, mais bon.
Non, mais parce qu'ils ont perdu une défaite. Mais non, ils ont des joueurs, et puis il a joué à Lyon, il a l'expérience. Maxwell Cornet. Bertrand Traoré, tu l'as acheté pourquoi? Mais c'est un bide, mais total, Bertrand Traoré. Il a fait une bonne saison à l'Ajax Amsterdam. Il a fait une finale, il a gagné contre Lyon. Mais on le voit plus. Il est où?
T'as les jeunes qu'il forme.
Martin Terrier.
Martin Terrier. Il joue pas.
Non, mais est-ce que vous êtes sûr, honnêtement, vous êtes sûr que les jeunes de Lyon sont meilleurs que ceux du Zénith? Moi, je suis pas sûr de ça.
Pourquoi?
Parce qu'on les connaît mieux qu'ils sont meilleurs
La plupart des joueurs formés à Lyon.
Il n'a pas tort.
Formés à Lyon, dans la grande majorité, ils explosent ailleurs.
Bruno, au moins, si tu gagnes pas à l'extérieur, t'essaies de faire un nul.
Bah voilà.
Là, t'es toujours en vie. Et tu peux te qualifier, mais là, tu perds 2-0. Quand tu vois le match,
c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que pour moi, sans aucun problème, en ayant vu le match aller et le match retour, le Zénith est supérieur à Lyon, tout simplement. Et là, moi, après, comme je vous dis, moi, j'attends beaucoup plus Lyon sur.
Dans notre angle.
En même temps.
Franchement,
ce Lyon là qu'on a vu, c'est un des pires Lyons qu'on ait vu en Ligue des Champions depuis longtemps.
Ça me fait rire parce qu'on a critiqué Genesio. Bruno Genesio, il a été critiqué sur le fond de jeu, etc. Il a eu des résultats. On a critiqué Nabil Fekir. Voilà, il est pas au top, etc.
On va parler justement de l'ancien Lyonnais.
Où est Lyon?
Il fait du bien du côté de Séville, Nabil Fekir. Toujours zéro partout entre Saint-Etienne et la Gantoise, 21 minutes. 21 minutes du côté de la fameuse Ligue Europa. On va s'attarder sur le cas de, si on a allé un petit peu de temps, Grandioso, je ne sais pas comment l'appeler, à travers toute l'Europe. On dit que du bien, Achille, d'un certain Karim Benzema. Que dire?
C'est
vrai qu'il a été pas mal. Il était incroyable quand même.
La France est le seul pays au monde à être autant. Et aussi ridicule. C'est-à-dire que vous avez le meilleur joueur français depuis maintenant 5 ans. Il est titulaire au Real Madrid.
Dan dit qu'en ce moment, il est l'un des meilleurs attaquants, c'est vrai.
Même les chiffres, sur l'année civile, il est parmi les 4 premiers attaquants.
Ça reste incroyable.
On le retrouve dans la même liste avec Lionel Messi, avec, comment il s'appelle, Lewandowski, Agüero. Benzema, il est dedans. C'est pas que je suis désolé. Quelqu'un qui tient plus longtemps que Guti, Raoul, dans le club, en équipe première, qu'on dise que oui, non, mais ceci, cela, arrêtez l'histoire de comportement, faites-le jouer. Parce que c'est pas possible. Karim Benzema, c'est Karim Benzema. Il a encore même dépassé, si je dis pas de bêtises, un des records de Di Stefano.
Tout à fait. D'ailleurs, on a reçu sur cette antenne Fred Hermel qui nous disait que c'était une légende. Et puis aujourd'hui, on le voit. Et puis c'est vrai, tu as raison. Que ça soit en Belgique, en Angleterre, mais tout le monde te dit, mais Eden Hazard, belge, international belge, qui te dit, mais pourquoi Karim Benzema ne joue pas en équipe de France?
Même le coach Tolé nous disait qu'il était le meilleur attaquant depuis les 10 dernières années.
Pourquoi Karim Benzema ne joue pas en équipe de France? Même nous, on se la pose la question parce qu'on n'a pas de réponse. Bilal, on n'a pas de réponse. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas accusé. Il n'y a pas de problème.
Mais en gros, Nabil, tu te fais plaisir pour parler de Benzema.
Bruno,
juste pour te dire, il est au top niveau, donc on est obligé d'en parler. C'est l'actualité.
Moi, j'en parle.
Je veux bien qu'on fasse ce débat encore et encore. On sait, c'est bon.
Non, on ne fait pas de débat. On parle justement. Attends, je sais à l'actualité. Karim Benzema est tout à fait incroyable.
Le PSG.
On en parle de partout, Bruno.
On en parle de partout.
Et on en dit aujourd'hui parce qu'on en parle encore de lui.
Mais tout le monde en parle, il n'y a pas que nous.
On est le quotidien.
Il y a les FIP, il y a RMC, tout le monde en parle.
Mais bien sûr, nos confrères.
J'ai une question à te poser. Tu es spécialiste, effectivement, du championnat belge.
Du championnat français aussi.
Oui, aussi. Mais si jamais Roberto Martinez n'appelle pas Lukaku, tu crois qu'il va se passer quoi?
Il dort plus. C'est pas pareil.
Martinez, il a construit son équipe avec Lukaku. Là, Deschamps a décidé de pas construire.
Il a commencé par construire son équipe de France avec Benzema. Je peux pas dire le contraire.
Non, mais son équipe.
Ah, mais peut-être Bruno, il a un élément de réponse que nous avons pas. Peut-être t'as une réponse. Pourquoi Karim Benzema n'est pas sélectionné aujourd'hui?
Voilà.
Dis-nous peut-être.
Parce que Deschamps n'en a pas besoin, c'est tout.
Il a pas besoin du meilleur joueur.
Merci à tous. Merci à tous. On revient de suite avec notre invité.
Je suis ni pour ni contre. Limite, je serais pour Benzema en équipe de France, mais bon.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM après le cas Benzema, mais aussi l'Olympique Lyonnais dans cette Champions League. On va passer à l'invité de ce soir.
Time Sport.
Et il est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beur FM, Yann Hidven, auteur et journaliste spécialiste dans les sports tels que les disciplines telles que le handball, aussi le volleyball. Il est avec nous ce soir avec nos consultants. Je le rappelle autour de la table pour m'accompagner. J'allais dire Yacine Bouali, non. Yacine nous écoute plutôt. Achille, Nabil Zindik et Bruno Ayo. Bonsoir Yann, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Justement Yann, on va se plonger directement dans cette magnifique interview, on l'espère, avec vous. L'annuel de référence sur le handball féminin, mais aussi masculin. Pourquoi chaque saison et Quelle nouvelle rubrique pourrait-on trouver aujourd'hui dans ce livre d'or 2019 du handball? Dites-nous tout.
Ben, aujourd'hui, on a vraiment mis en avant l'équipe de France féminine.
Ouais.
C'est pas souvent qu'un livre de sport met une athlète en couverture. On a choisi Estelle Zeminko, qui est une des joueuses les plus spectaculaires de l'équipe de France.
Et une magnifique photo.
Ouais, elles ont mérité ça. Elles ont mérité cet hommage. C'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Elles sont championnes du monde, championnes d'Europe, qualifiées pour les Jeux Olympiques, où elles seront les grandes favorites l'année prochaine. Et en ce moment, elles sont en plein dans l'actualité. Elles vont commencer le championnat du monde au Japon dans 3 jours.
Justement, aujourd'hui, vous mettez en place, vous avez mis en avant le handball féminin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup trop ou beaucoup moins sur le sport féminin, et notamment sur cette discipline qu'est le handball? Aujourd'hui, on a pu apercevoir quand même le mondial qui s'est installé dans le paysage français dernièrement. Mais est-ce qu'on pourra découvrir pleinement ces sports sur nos antennes de nos chaînes sportives, et aussi avoir une réelle attractivité? Quel est le problème, le tabou peut-être, si je peux me permettre, avec le sport féminin?
C'est peut-être un problème de société d'une manière générale, hein, que le sport reste perçu comme l'emblème des valeurs viriles, de la masculinité, et les femmes doivent prouver, peut-être plus que les hommes pour ça. Et c'est vrai qu'en handball, elles ont mis un peu plus longtemps à arriver au sommet. Aujourd'hui, elles y sont. Mais elles doivent confirmer toujours pour avoir droit pour avoir beau chapitre.
Justement, aujourd'hui, on peut l'apercevoir avec ces filles dans le handball, mais à travers les clubs, on peut le voir à travers ces coupes européennes, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Ils sont beaucoup plus avancés. J'aimerais bien, je vous titille un peu là, mais comment ça se fait que nous, quand même en France, on accueille bientôt les JO 2024, mais on est toujours un peu à la traîne. C'est juste quand, par exemple, on aperçoit les demi-finales de l'équipe nationale de handball, qu'on va s'attarder, qu'on va s'intéresser à ces athlètes, et qu'avant on a rien quoi de tout ça. On a vraiment rien. Et aujourd'hui, c'est des sportives, des femmes, des jeunes, que ça soit hommes ou femmes, s'interrogent sur ce problème-là, quoi.
Alors, c'est une question économique aussi, hein. C'est que les grandes fédérations ont besoin des droits télé versés par les chaînes payantes. Donc là, c'est beIN Sport qui diffuse le championnat.
Même confrère de beIN.
Et effectivement, souvent, c'est seulement à partir de demi-finale et finale que ça passe en clair. Maintenant, dans le paysage français, c'est pas évident de trouver sa place. Le foot, vous en avez parlé longuement tout à l'heure, évidemment, c'est devant tout le monde. Il y a le rugby, il y a le basket. On est un pays où il y a énormément de sports. Peut-être l'un de ceux où il y en a le plus au monde. Et donc, c'est pas évident de trouver sa place dans l'espace médiatique.
Justement, on va quitter l'espace médiatique parce que quand même elles ont fait une magnifique saison ou même année ces demoiselles comparées aux Bleus. Peut-être la poussée elle est extraordinaire des filles aujourd'hui vis-à-vis de nos garçons, parce que nos handballeurs, il y a eu une magnifique période, même encore aujourd'hui une magnifique épopée, si je peux me permettre, durant près de 20 ans. Et aujourd'hui peut-être on a passé le relais à ces dames. Vous en pensez quoi, Yann?
Alors oui,
la comparaison, filles et garçons, ouais.
Mais les garçons, franchement, c'est bien ce qu'ils font. Ils sont
encore
médaillés de bronze au championnat du monde.
Ouais. Cette année. Mais ils nous ont habitués, surtout à
l'Euro l'an dernier.
Ouais.
Mais ils nous ont tellement habitués à tout le temps gagner.
Voilà, c'est ça.
Qu'effectivement, on est déçus et eux aussi sont déçus quand c'est seulement une médaille de bronze, je dis ça entre guillemets. Hein. Mais ils veulent. Moi, j'en ai encore eu un au téléphone hier, Ludovic Fabriot, qui me disait, nous, on va au championnat d'Europe en janvier, on veut gagner. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné. Ça fait 2 ans.
Voilà. C'est pas faux. On peut aussi la comparaison que l'on peut avoir avec Fabregas, Ludovic, Melvin Richardson, de son père. Avec les Barjots et aujourd'hui, ce que vous pourrez nous dire au fur et à mesure d'avoir concocté ce livre d'or 2019, les comparaisons faites avec ceux faits auparavant, Yann. Les générations se ressemblent-elles?
Alors, aujourd'hui, cette fameuse génération, elle n'est pas encore tout à fait partie. Il reste Karabatic, bien sûr. Il reste Guigou, il reste Abalo, il reste Cédric Sorrendo, qui est un garçon plus discret, mais toujours extrêmement important. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est fantastique. Effectivement, vous avez évoqué Melvin Richardson, il y a Fagas, il y a Nedim Remili, Tika même. Et pour l'instant, la difficulté, c'est d'arriver à rassembler des joueurs aussi talentueux et de générations très différentes. Ça a été un peu difficile au championnat du monde en janvier. Mais là, on les a vus repartir cet automne. On a l'impression qu'ils sont vraiment en mission pour gagner le championnat d'Europe, pour aller aux JO.
Justement, on va s'attarder après les garçons. On revient un peu avec justement cette Coupe du Monde, le championnat du monde féminine au Japon. On le rappelle, pour tous les amoureux du handball et de cette discipline, du 30 novembre au 16 décembre 2019 au pays du soleil levant. Et la France est dans le groupe B, Yann, avec l'Allemagne, tout de même, le Danemark, il faut le rappeler, l'Australie, le Brésil et la Corée du Sud. Quelles sont les chances de nos Françaises, nos tricolores?
Alors, c'est une des équipes favorites de la compétition. Il n'y a aucun doute. Il y a la France, il y a la Norvège, la Russie. Elles ont le potentiel pour. Elles sont au complet. Elles ont l'énergie. Elles sont toutes en confiance en club. Elles cartonnent. La seule question, c'est est-ce qu'elles auront la même énergie, la même motivation que les autres, parce qu'elles sont qualifiées pour les Jeux Olympiques après le championnat d'Europe l'an dernier. Les autres équipes ne le sont pas. Elles ont besoin de se battre sur cette compétition pour le gagner. Et on a vu chez les garçons en 2012, en 2016, dans cette situation, ils avaient beau vouloir y aller, avoir tout le talent, ça a été compliqué. Les écarts sont tellement infimes entre les équipes que ça peut faire la différence en leur défaveur.
Justement, aujourd'hui, on aimerait bien avoir, pourquoi pas encore un nouveau sacre. Les chances de cette équipe de France, bon, allez, elles sont pas infimes. On est bien confiant pour ces Françaises, pour nos Françaises. Mais qui pourrait nous jouer, devine un tour, au sein même de cette phase finale de cette Coupe du Monde, selon vous, Yann?
Les deux équipes les plus fortes en dehors de la France, c'est la Norvège, qui a dominé le monde longtemps.
Les pays scandinaves toujours présents.
Les garçons, et il y a la Russie aussi, qui est toujours championne olympique, et qui a été finaliste de l'Euro l'an dernier contre la France. Et c'est pour moi les deux équipes les plus dangereuses, mais elles peuvent avoir des problèmes contre le Brésil, elles peuvent avoir des problèmes contre le Danemark dès le premier tour. C'est une course de fond, le championnat du monde. Il y a un premier tour, un deuxième tour, et après, il n'y a que deux équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Donc il faut pas se louper.
Ouais, ça reste les. Est-ce qu'on a beaucoup de sur les championnats du monde? Est-ce que ça arrive pas mal de fois les blessures chez les athlètes sur des championnats tels quels?
Alors
surtout chez les filles, comparé que.
Je trouve que ça arrive de plus en plus souvent. Alors chez les filles, on a le souvenir d'Alison Pinault qui s'était gravement blessée sur la demi-finale de championnat du monde en 2011 au Brésil. Et ça avait plombé l'équipe de France en finale. C'était la meilleure joueuse de l'équipe. Mais on va toucher du bois pour elle. Jusqu'à présent, il y a eu très peu de blessés depuis 2 ans dans l'équipe de France féminine. La seule absente aujourd'hui, c'est Syraba Dembélé, la capitaine. Et c'est plutôt pour une bonne nouvelle, c'est une maternité.
De vous à nous, le pronostic pour vous concernant cette sélection française. Elle ira jusqu'à la fin, sera sacrée championne, on l'espère.
Allez, moi je les vois sur le podium au moins.
Oui, pourquoi pas. On l'espère, Yann Hinven. On le rappelle, l'auteur de ce magnifique livre d'or Handball 2019 avec un préface d'Olivier, c'est bien ça.
Olivier Combals, le sélectionneur de l'équipe de France féminine.
Tout à fait. Et justement, on va, avant de terminer cette interview, on va encore vous garder avec nous, Yann, concernant ces magnifiques clubs dans notre championnat masculin. Aussi, on a vu du renouveau avec Montpellier, avec Nantes, avec aussi le PSG Handball. Vous en pensez quoi aujourd'hui? On est équipé, on a de bons joueurs, on peut le faire.
Ah ben aujourd'hui, on a un super championnat de France. Il faudrait qu'il y ait plus de monde qui le regarde encore.
Ouais. On a mis du temps, mais aujourd'hui, quand même. Oui, mais quand même, on a mis du temps à s'attarder dessus, mais aujourd'hui, quand même, ça va. C'est mieux qu'à un certain temps, quoi.
Bah, on a eu les trois clubs aux trois premières places de la Ligue des Champions en 2018. L'an dernier, ça a été plus compliqué.
Ouais.
Mais le PSG aujourd'hui est un des tout meilleurs clubs d'Europe, avec le Barça, avec les Hongrois de Westfalen. Et Montpellier, c'est un grand club historique qui a réussi à devenir champion d'Europe il y a un an et demi. Nantes aussi est devenu très puissant. Et il y a plein d'autres clubs qui se développent. Nîmes, Aix, je veux pas en oublier. Mais ouais. Il y a vraiment une économie qui se développe. Une culture, on a une qualité de formation en handball, c'est comme on la trouve en foot, comme on la trouve en basket, qui fait qu'il y a toujours des nouveaux talents qui arrivent et ça nous donne effectivement un championnat spectaculaire. Aujourd'hui, c'est le meilleur avec l'Allemagne.
Et ben on l'espère en tout cas qu'il va durer en tout cas. Yann.
Oui.
Ouais, mais moi je vous en remercie de tout cœur avec toute l'équipe de Tamsport pour avoir réagi dans cette émission. On essaye de retrouver ce magnifique livre aux éditions Solar. Ça, il faut aller vous le procurer pour les périodes de fêtes de fin d'année. Messieurs, dames, et oui, le livre d'or du handball 2019 aux éditions Solar. Je tiens à le rappeler. Merci à vous, Yann Inven.
Merci, bonne soirée.
Merci. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On reviendra de suite avec la Ligue des Champions, notamment le Barcelone, Dortmund, sans oublier la Ligue Europa, avec Saint-Étienne qui rencontre la Gantoise. 42e minute et toujours 0-0. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Oui, en live sur l'antenne de Beurre FM. Eh oui, Achille, t'inquiète pas, on va mater ces matchs-là pour la CIF Cup, on le rappelle, 2019 du côté de Nanterre, ce samedi 30 novembre. Eh oui, toute l'équipe de Tamsport, et il sera pour représenter le média qui est Beurre FM avec Nabil Zendjik. Bruno Ouyo sera de la partie, on espère aussi.
Bilal Nenman surtout.
Ah, mais moi je vais jouer d'entrée, tu verras.
On a hâte de voir Bilal Nenman.
Tu verras, prends les photos, les vidéos, tout ce qui va avec, il n'y a pas de problème, vous verrez. Eh oui, un bon joueur, il était à l'époque. Le FC Barcelone face au Borussia Dortmund, c'était hier soir.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, le Barça qui domine Dortmund 3-1 et s'assure donc de cette fameuse première place, comme le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Suarez à la 29e, Messi 33e et on n'oublie pas Grisou, notre Grisou national, 67e. Puis le Borussia, excusez-moi, j'allais dire le Bayern de Munich, Sancho à la 77e pour le Borussia. Que dire messieurs, mis à part cette passe D de Léo Messi pour un certain Griezmann. Et Griezmann s'attache et commence à s'attarder au Barça, on l'espère en tout cas. Et même Alex nous le disait, vous verrez, ça va mettre du temps, mais il sera bien présent.
Moi je ne m'attarderai même pas sur ce point-là. Il y a deux points clés pour moi dans le match. C'est la première occasion dès les deux trois premières minutes où c'est Hakimi ou Schultz qui l'occasion ratée de Dortmund qui passe à rien du tout d'ouvrir le score. Ou là, qui pour moi, si Dortmund ouvre le score, la physionomie du match n'est absolument pas la même. Et puis, le deuxième fait marquant, c'est la blessure, encore une fois, la nouvelle déchirure musculaire de d'Ousmane Dembélé, qui est reparti pour un tour. Sa saison en 2019 est terminée. On ne le reverra qu'en 2020. C'est pour moi l'effet marquant. Les bêtises qu'on entend partout, oui, Griezmann et Messi sont devenus copains, oui, nanani, faut arrêter. Vous êtes tous des footiques, excusez-moi de parler comme ça, mais ils sont pas amis du tout, ils le seront pas.
C'est juste il est allé sur lui, qu'est-ce que tu me racontes, Achille ?
Il a fait une passe, c'est juste l'intelligence de jeu de Messi qui a fait que aujourd'hui, oui, ils sont amis, non, pas du tout. Quand Mbappé, il est face au Real Madrid, il a la balle du 3-2.
Il est coéquipier quand même.
Non, mais à deux reprises, il ne fait pas la passe ni à Neymar ni à Draxler. On ne dit pas oui, ils sont en embrouille les deux. Hein.
Ouais.
Ah, on ne dit pas la même chose. Mais par contre, quand c'est Griezmann, ah oui, les deux. Ah, mais si, il est méchant. Et Dieu seul sait que je ne suis pas un fan absolu de Lionel Messi.
Ouais.
Mais à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter. Il n'y a rien du tout. Oui, il a fait une passe, il a marqué un but. Ok, bravo. Salut.
Aïe, aïe, aïe. Nabil, Barça, Dortmund, hier soir. En tout cas, Antoine Griezmann, eh oui, il en a mis un.
Ouais, bah, de toute façon, Messi est obligé maintenant de jouer avec Griezmann, hein, parce que Dembélé et Ousmane Dembélé, international français, est souvent blessé. Donc, du coup, parce que le titulaire, c'était bien Ousmane Dembélé, c'était pas Griezmann.
C'est ça.
À plusieurs matchs, on le voit sur plusieurs matchs, le vrai titulaire, c'est Ousmane Dembélé. Sauf que malheureusement, pour lui, il est souvent blessé. Je crois qu'il a été blessé 9 fois, il a dû rater presque.
C'est la cinquième fois depuis le début de la saison.
50 matchs depuis qu'il est arrivé à Barcelone en 2017. Ça va faire sa troisième année où le talent, il l'a. Maintenant, c'est les blessures à répétition. Ça avait fait polémique à un moment donné à côté Barcelone, où même Lionel Messi avait parlé, avait dit « Attention, là, tu joues dans un grand club. » Il avait un peu interpellé Ousmane Dembélé sur son hygiène de vie également, et peut-être voilà, faire des choix sur son hygiène de vie, sur sa vie, etc. Et on retrouve Ousmane Dembélé encore blessé au bout de la 26e minute.
C'est ça.
C'est ça qui est dommageable. C'est Griezmann qui rentre, qui saisit sa chance, hein, puisque, comme tu l'as souligné, il est décisif. Mais de toute manière, on sait que Suarez, Messi, c'est des potes. Ils mangent ensemble, ils sortent ensemble.
Ils vont en vacances.
Ouais,
ils vont
mais
vacances
ça fait ensemble. Rien, ça, quand même.
Mais ça joue, non, ça joue. Ça c'est un joue. État d'esprit.
Ah oui, pour toi.
C'est ce qu'on appelle, on peut dire, c'est un effet de groupe. Voilà, c'est plus sympa, c'est plus facile.
Mais Griezmann aussi, il sort avec Umtiti, avec Dembélé aussi.
Ouais, mais ils n'ont pas cette complicité qu'on voit à tous les matchs entre Suarez et Messi. D'ailleurs, ça se ressent sur le terrain. Griezmann, il est un peu isolé. Bon, aujourd'hui, on est obligé de faire avec parce qu'Ousmane sera blessé. De toute façon, c'est terminé.
C'est ça.
Et je pense même que on parlait d'un échange entre Neymar et Ousmane Dembélé. On disait, je sais pas si c'est vrai, mais dans la presse, que Ousmane a refusé de venir au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Neymar n'a pas été transféré à Barcelone.
Là, on dirait que c'est inéluctable pour Kylian Mbappé.
Non, mais vu le nombre de blessures d'Ousmane Dembélé, je pense qu'aujourd'hui, Neymar, et on connaît la relation que Neymar a avec Messi ou avec Gérard Piqué. D'ailleurs, il l'a montré dernièrement lorsqu'il a été à Madrid pour je crois la Coupe Davis, c'est ça, organisée par son ami Gérard Piqué. Donc, je pense que c'est inéluctable. Aujourd'hui, Messi demande que Neymar revienne et Ousmane Dembélé fera le chemin inverse. Non, il partira. Je pense que c'est inéluctable.
Alors justement,
après. Honnêtement, je pense que voilà, Griezmann, façon son adaptation va se faire, mais c'est surtout que on a eu un vrai désordre tactique avec Valverde qui sait pas, je sais pas pourquoi est-ce que tu acceptes de prendre Griezmann si tu sais pas comment l'utiliser. Mais, donc voilà, là ça commence à aller un peu mieux. De toute façon, Griezmann il veut s'intégrer au Barça, bon ça passe par tirer les pompes un peu de Messi. Griezmann il s'en fout de ça, puisqu'il veut se jouer au Barça, voilà. Mais moi je pense pas qu'il y ait d'embrouille spécialement. Après, ce qui est dommage. Pour Dembélé, voilà, c'est qu'il a sa chance de temps en temps, mais qu'il n'arrive pas à enchaîner. Il va falloir qu'il bosse pour notamment si c'est un problème de compensation aux ischio-jambiers, puisque c'est soit le côté droit, soit le côté gauche, qu'il fasse un travail de compensation pour être au niveau, tout simplement, parce que c'est un peu dommage, quoi. Le Barça a beaucoup investi sur lui et il n'arrive vraiment pas à confirmer, c'est vraiment dommage.
Avant de poursuivre la Ligue des Champions avec toi encore, Achille.
Oui, mais là,
on Barça.
Voilà, on s'attarde beaucoup sur FC Barcelone. Mais on a vu un petit peu le Borussia Dortmund avec Lucien Favre. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. S'il est un petit peu dans une situation un peu
c'est compliqué, très compliqué. En championnat,
en championnat
4-0
aussi.
Contre le Bayern.
C'est ça, le 3-3 face à Paderborn
qui est dernier
du championnat.
Où ils étaient menés 3-0 à la mi-temps.
Voilà, c'est ça. Quand on voit les choix et l'équipe de départ, on se pose la question parce qu'on voit que Jadon Sancho, il est sur le banc. Thorgan Hazard, également sur le banc. Il y a Julian Brandt sur le banc, Mario Götze sur le banc. On voit l'équipe qu'il a mis en place est une équipe quand même assez défensive. C'est pas forcément dans les habitudes de Lucien Favre. Et je sais pas, il a perdu de sa superbe. Je pense qu'il a besoin de.
Il est sur la sellette, on peut le dire clairement. Je pense qu'il est sur la sellette.
Je peux même te donner une info.
Ouais.
On envisage de le faire revenir à Nice.
Waouh. Quand même. Là, c'est assez chaud ce que tu nous envoies là dans la gueule. Ouais. Vraiment.
Juste pour revenir sur Barcelone.
On a avec des pincettes peut-être, non.
Juste pour revenir sur Barcelone.
Voilà. Ouais, alors terminé sur Barcelone avant de.
Moi, j'ai aimé un joueur qui s'appelle Lionel Messi qui va gagner le Ballon d'Or. Ouais, je peux vous l'annoncer.
Oh, lundi, toi aussi.
Lionel Messi, ouais. Ballon d'Or.
Pour Nabil Zindik, notre conseiller sportif. Lionel Messi.
Il y en a plein.
Toi aussi, Alchid, tu le rejoins.
Il y a quelques mois, je le disais. C'est lui qui sera nommé Ballon d'Or, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit pas content. Eh ben, on avait
le meilleur joueur du monde. Ouais. C'est bien
c'est
Lionel
Cristiano
Messi.
Ronaldo.
Ah là, c'est... Ah, ils sont pas d'accord les deux. Ils sont pas d'accord. Allez, l'avant-dernière partie de cette émission.
Time Sport. Le duel.
On le gardera pour le mode pressing, c'est l'Europa League, mais on va s'attarder encore sur cette fameuse Ligue des Champions avec là aussi le Liverpool-Naples. Liverpool et Naples se quittent sur un nul et devront tout de même, messieurs, attendre pour la qualification. Là, ça va poser encore des problèmes. Achille, non, regarde pas comme ça. Un but partout. Et oui, dans ce groupe E, sur cette cinquième journée de la fameuse Champions League, que s'est-il passé? Mertens a marqué à la 21e et à la 65e pour les Reds de Liverpool, Lovren. Et oui, Bruno, pas encore qualifié. Ça promet, ça, dans le groupe E.
C'est un groupe assez serré, surtout parce que le Red Bull Salzbourg fait des prestations auxquelles on s'attendait pas.
Avec Haaland.
Après, voilà, il faudra que... Bon, je pense que Liverpool... Oui, je pense que Liverpool va passer.
À 10 points, Naples à 9 points, Salzbourg 7.
Naples va passer parce que le RC Genk, l'équipe belge de groupe, est complètement à la ramasse. Là, ils en sont à 18 matchs consécutifs, 18 matchs de Ligue des Champions en phase de groupe qu'ils ont joué depuis qu'ils ont l'occasion de jouer à la Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné une seule fois. Donc, ça, ouais, à mon avis, ça ne va pas être à Naples qui vont gagner. Donc, je pense que Naples et Liverpool vont passer.
Ouais, moi, je m'attarderai pour féliciter Dries Mertens parce que le but qu'il a marqué dans l'angle où il a mis, il a marqué son but face à Alisson Becker, respect. Respect, parce que ce joueur-là, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il explose sur le tard, mais quand on voit ce qui se passe à Naples et quand on voit la réaction même de Jürgen Klopp quand Dries Mertens ouvre le score, ça en dit long. Ça en dit long sur cette Ligue des Champions, à savoir est-ce que les gros sont réellement focalisés sur la Ligue des Champions, mais pas sur leur championnat respectif. Là, en ayant vu la physionomie du match, c'est poussif, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on navigue en eau trouble. C'est vraiment, on voit que les joueurs ils sont à demi impliqués, voilà. Ils sont demi.
Ouais, mais ça, c'est grave là, ce que tu es en train de dire.
Mais c'est la vérité.
Liverpool,
en même temps,
le tenant au titre de cette édition 2018-2019. Oui, c'est poussif, c'est grave.
C'est très poussif. Après,
passons
quand on
Napoli.
Voit que Naples, oui, après, quand on voit même Naples aussi non plus.
Après Naples en championnat, ils sont en difficulté. Ouais, donc voilà, là, ils ont tout donné en Ligue des Champions.
Donné, voilà.
Parce que Carlo Ancelotti aussi, il a un peu de mal là, vu le résultat qu'il a en ce moment avec sa direction. C'est un peu chaud. Donc Naples, oui, c'était leur match de leur vie face à Liverpool. Après, je pense que les deux équipes vont se qualifier. Comme tu l'as expliqué, Bruno, face à Genk, équipe belge. Je pense que Naples va gagner et sera qualifié. Liverpool également, parce que
attention,
quand t'es champion, et là, franchement, tu te fais éliminer en...
Le groupe est assez chaud. Hein,
attention,
groupe,
parce que beaucoup sous-estiment le Salzbourg.
Excusez-moi.
Ah, mais le duo d'attaque...
Salzbourg éliminer Liverpool.
Eh ben, le duo d'attaque avec le petit Haaland et le japonais sud-coréen, il est explosif. Hein.
Et ouais, mais là, t'as un top coach, à l'expérience Ligue des Champions.
Le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est Haaland. Il joue à Salzbourg. Ouais. Hein.
Non, mais je pense que Salzbourg va sortir, puisqu'en plus, ça joue entre... En gros, si Naples gagne, Salzbourg est éliminé. Donc, je pense que malheureusement pour Salzbourg, Naples va gagner. Mais Salzbourg a été plaisant à suivre. Moi, j'ai suivi sur plusieurs matchs.
Bah, on va continuer à les suivre en Europe.
Ils ont vraiment été bons. Ils ont vraiment une qualité collective assez impressionnante. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs vraiment bons. L'arrière droit Christensen qui est bien, le gardien Coronel brésilien aussi très intéressant, et l'Inde donc dont on a parlé, norvégien, son coéquipier en attaque Wang, Mouepou et comment il s'appelle, et Daka, les Zambiens qu'on a pu observer à la coupe du monde des moins de 20 ans en 2017. C'est vraiment une équipe très intéressante, et leur projet du côté de Salzbourg, c'est vraiment intéressant.
On termine cette émission KTM Sport avec la dernière rubrique
Time Sport. Le duel.
Le duel, mode pressing, comme tu veux, ça fait rien. En tout cas, c'est entre Saint-Etienne et la Gantoise, le club belge en Europa League. C'est la mi-temps, 0-0, 8 tirs pour les Stéphanois, mais juste un tir cadré, Nabil. Un match, là aussi, on peut le dire, assez poussif. Assez poussif. Nos clubs français en cette.
En Europa League.
En Europa League, c'est assez quand même. Ah, c'est incroyable, quoi.
À part le PSG qui brille en Europe.
Oui, mais il n'y a que le Paris Saint-Germain, justement.
On est habitué, je veux dire.
Et merci au Paris Saint-Germain.
À part Rennes l'année dernière.
Ouais, ça dépend. Quelques saisons, on a ce club.
Justement.
Marseille, Rennes, des fois.
Quand on regarde, moi,
c'est tout.
Là, c'est peut-être, il y a peut-être 0-0 à la mi-temps, et on espère tous que Saint-Etienne va passer le cap, parce que c'est la Gantoise, excusez-moi du terme. Hein. Oui, ok, c'est une équipe du championnat belge, c'est une bonne équipe, mais bon, la Gantoise.
Ah, mais toujours présente en Europa League, quand même.
Ils sont pas supérieurs. Mais 4, mais comment ça, pas d'accord, c'est
ouais.
On parle
de Saint-Etienne à quoi envier à la Gantoise.
Du travail.
Ils ont des joueurs. En fait, Saint-Etienne a des joueurs, a des très bons jeunes joueurs. Ils ont un superbe coach. Quand je vois la forme physique de Saint-Etienne, quand Claude Puel reprend le club, ils sont 19e. Aujourd'hui, ils sont combienième? Ils ont quoi envié? Ils ont quoi envié à la
Ils ont perdu au Cameroun.
C'est pas parce qu'ils sont bons dans leur championnat en ce moment que. Non, la Gantoise, c'est une équipe qui travaille bien depuis plusieurs années.
Oui, t'es belge. On sait que t'aimes la Belgique.
Non, ça n'a rien à voir. En plus, je suis franco-belge en plus. Donc, moi, j'ai. Non, mais le truc, c'est que.
T'es champion du monde du Beaujolais aussi ou pas?
Te laisse pas aller, Bruno. On termine l'émission. S'il te plaît.
Le truc, c'est que la Gantoise, ils sont en tête de ce groupe déjà. Et en plus, quel que soit le résultat de Saint-Etienne, en tout cas, si Saint-Etienne ne gagne pas là, et si Wolfsburg prend au moins un point, Saint-Etienne est éliminé. Donc, le truc, c'est que la Gantoise, c'est une équipe qui travaille très bien, qui allait gagner à Wolfsburg sur le match précédent, et qui est vraiment au niveau européen, une équipe qui est en train de monter. Donc, le match est assez équilibré.
On termine, Bruno.
Mais que la Gantoise fasse de meilleurs résultats que Saint-Etienne et pas sur ce qu'ils ont montré cette saison en Ligue Europa, voilà. Et puis si Saint-Etienne travaille
Merci.
Bien et que la Gantoise travaille mieux, c'est pas la faute de.
Merci Bruno Ayo, Achille, et sans oublier Nabil Zindik de m'avoir accompagné durant cette émission. 19h20, on se donne rendez-vous pour la dernière de la semaine demain sur l'antenne de Beurre FM. La suite des programmes. Bonsoir.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.